Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal de Grâce Samzati Masanzi.
À la une de l'actualité ce soir, la situation sécuritaire demeure préoccupante sur l'axe Walikale Kisangani, marquée notamment par des viols et des tueries parmi les déplacés qui ont fui Walikale Centre au nord Kivu à l'arrivée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources locales, cette flambée d'incidents sécuritaires entraîne des conséquences humanitaires dans la région. Des centaines de personnes ont pris d'assaut jeudi et vendredi le centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa CNPP pour les consultations gratuites sur leur santé mentale. Dans ce journal, vous entendrez des témoignages de quelques Kinois qui se disent satisfaits de cette opération tout en appelant les autres qui hésitent encore à venir profiter de cette campagne. L'invité de la rédaction ce soir est la directrice générale de l'Agence des communications responsabilité sociétale des entreprises au Kassai Oriental. Elle nous parle de la journée sectorielle sur les mines, la résilience et le développement dans l'Est de la RDC qui a réuni le mardi les femmes qui évoluent dans les secteurs des mines, des médias, de la santé ainsi que quelques directeurs des entreprises publiques. À toutes et à tous, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu, où plusieurs incidents sécuritaires sont signalés parmi les déplacés qui ont fui sur l'axe Walikale-Kisangani. C'est dans le territoire de Walikale. Ses habitants ont fui Walikale Centre depuis son occupation par le M23 le 17 mars dernier. Une ONG locale de défense des droits de l'homme parle des cas de viols et autres incidents sécuritaires avec mort d'homme. Les détails avec vous, Jude Mister Bilanda.
Cette ONG déclare avoir enregistré au moins une trentaine de cas de violences sexuelles parmi les déplacés dans les villages de Jingala, Mafombi, Mubi, Logou et Makana entre le 17 et le 23 mars dernier. D'après toujours cette ONG, deux jeunes filles qui auraient résisté au viol dans les villages Makana auraient été tuées à bout portant par leurs présumés violeurs porteurs d'armes. Les victimes des viols ont été référées vers les centres de santé de Njingala et vers celui de Bissier. Ces structures sanitaires éprouvent des difficultés pour la prise en charge de malades par manque de médicaments, vu l'afflux de déplacés dans la région, selon les responsables de cette ONG. Il évoque également plusieurs autres cas de violation des droits de l'homme. C'est notamment des tortures, des vols, ravissements et pillages. Il affirme que les conducteurs des taximotos qui fréquentent ces taxes sont souvent victimes de tracasseries et arrestations arbitraires de la part d'hommes armés. Les centaines de déplacés qui ont fui et sont actuellement dispersés sur différents axes à la suite de l'avancée rebelle vivent dans la précarité. Ils sont dépourvus de tout et ayant tout abandonné dans leur fuite. Difficile pour les humanitaires d'accéder dans ces territoires à cause de l'instabilité sécuritaire et de l'enclavement du territoire.
En Ituri, pendant ce temps, les jeunes de la chefferie de Banyari Tiabi, dans le sud du territoire d'Irumu, saluent la collaboration entre la population locale et toutes les forces de sécurité présentes dans la région, dont les casques bleus de la MONUSCO. Ils l'ont dit cette semaine au commandant de la force onusienne, le général Ulysses Gomez, en mission dans la province depuis une semaine. Une collaboration qui contribue, d'après eux, à la sécurisation de la zone. Sadiq Aboubakar pour plus d'explications.
Le général Ulysses Gomez, le nouveau commandant des casques bleus de la MONUSCO, a effectué une tournée cette semaine dans plusieurs entités de l'Ituri où les soldats de la paix exécutent leur mandat de protection des civils. L'objectif était de rencontrer ces hommes et femmes qui travaillent dans des conditions difficiles pour exécuter le mandat de protection des civils, tout en espérant le rétablissement d'une paix durable dans la chefferie de Tiabi. En proie à l'activisme des ADF, la jeunesse locale a fait part au patron de la force de la MONUSCO de son soutien aux différentes forces en présence, dont les casques bleus. Jean-Pierre Bassiloko est le président du conseil local de la jeunesse.
Nous partageons une très bonne relation avec la MONUSCO qui est ici à Tiabi, ainsi que les forces de sécurité installées sur place ici. Nous faisons même des patrouilles nocturnes avec eux.
Pour sa part, le président de la société civile locale plaide pour le renforcement des effectifs des FARDC aux côtés des casques bleus et des UPDF, l'armée ougandaise.
L'unité commando qui est arrivée n'occupe qu'une partie d'un village pendant que nous en avons 26. Par conséquent, plusieurs villages restent inhabités à cause de l'absence des militaires FARDC.
Notez que le général Ulysses Gomez a visité les localités de Fataki, Komanda, Drodro et Tiabi jeudi et vendredi. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, cette fois-ci dans le territoire de Beni. La société civile du groupement de Basongora, au poste frontalier de Kassini-Loubiria, plaide pour un renforcement de la mobilité de la police nationale congolaise pour faire face à la recrudescence des cambriolages et des vols à main armée dans la région. Selon Denis Kalinga, son coordonnateur, le poste frontalier de Kassindi mérite un appui financier de l'État, vu son poids économique, afin d'aider la police à se doter des moyens efficaces, notamment des engins roulants, ce qui, affirme-t-il, améliorera ses capacités opérationnelles en cas d'intervention. Denis Kalinga est joint par André Kitenge.
La situation sécuritaire pour le moment reste volatile au poste frontalier de Kassindi. La nuit d'hier, l'ennemi a voulu signer son incursion dans certains quartiers au poste frontalier de Kassindi. Nous ne pouvons jamais minimiser le poste frontalier de Kassindi à ce qu'est son impact sur les plans financiers au niveau national. Alors c'est impérieux que nous puissions voir une redevance qui doit aider la province, qui doit aider le groupement Basongora au poste frontalier de Kassindi à avoir une jeep, avoir des éléments de la police qui sont professionnels afin de mettre fin à ce que nous sommes en train de vivre ici. Il ne peut jamais passer une nuit sans que l'ennemi ne signe son incursion dans les domiciles de nos paisibles citoyens. Et ça nous fait très mal au cœur, malgré nos alertes, nos condamnations, malgré tout ce qu'on a fourni comme effort, nous ne voyons aucun résultat. Merci parce que le gouverneur de province a songé à doter quand même les 4 motos, mais nous avons besoin d'une jeep qui peut nous aider à accéder sur toute l'étendue dit poste frontalier de Kassindi.
Comme dit dans les titres, 2 journées de consultations gratuites dédiées à la sensibilisation sur la santé mentale et la santé du cerveau au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Ces consultations qui se sont tenues les 27 et 28 mars reflètent l'engagement du CNPP à servir la communauté tout en affirmant son rôle clé dans le développement social et médical de la RDC. Un événement accueilli avec enthousiasme par les habitants qui ont répondu présents. C'est ce que nous dit Moudoumbi Benjamin dans ce reportage.
Des centaines de personnes ont afflué pour bénéficier de services offerts. En fait, les effets de guerre, par exemple, peuvent être le mobile des troubles neurologiques. Et ce qui est à la base de l'initiative, souligne le médecin directeur, professeur Daniel Okitundu.
Nous avons compris qu'il était très important de faire quelque chose, informer et sensibiliser. À cause des effets de la guerre, il y a des gens qui sont en détresse psychologique, qui peuvent avoir des troubles mentaux et des comportements.
Malheureusement, certaines personnes sont toujours hésitantes, d'où l'appel du docteur Grace Bilungula.
Le CNPP n'est pas un hôpital des fous. C'est un hôpital avec différentes spécialisations. Nous avons les neurologues, les psychiatres qui s'occupent de la santé mentale, des psychologues, des kinésithérapeutes, des assistants sociaux, des logopèdes qui s'occupent du langage. On a autant de spécialités pour pouvoir aider les gens et les prendre en charge.
Ceux qui se sont fait consulter pendant cette campagne, de fleurs au CNPP.
J'étais déprimée, c'est pour ça que je suis venue pour me consulter. Après être consultée, on nous a donné le médicament gratuitement et puis après on m'a dit de repasser dans un mois.
À travers ces consultations gratuites, le CNPP a réaffirmé son rôle crucial dans la prise en charge des troubles mentaux et neurologiques vu le besoin.
Direction la province du Kwilu, la page du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kwilu vient d'être tournée. Les élections des membres du bureau définitif de cet organe délibérant ont eu lieu au cours de la plénière de ce vendredi. Au total, 47 sur les 48 élus que compte cette institution parlementaire ont participé au vote. L'opération organisée par la commission ad hoc mise en place pour cette circonstance s'est déroulée sans incident. Le compte rendu de Irène Bouma.
Claude Kumpen-Passi, c'est le nom du désormais président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Il est élu à ce poste avec 27 voix au second tour, après avoir battu son challenger Félicien Lupemba qui en a eu 20, alors que le président du bureau provisoire Oscar Nsaman a été éliminé dès le premier tour. Le député Serge Masekandombe s'est imposé comme vice-président avec 24 voix, face à Paulin Kiankai, ancien vice-président de la législature de 2018, qui a perdu avec 22 voix. Étant le candidat unique au poste de rapporteur, Désiré Iyemvela a quant à lui été élu rapporteur par acclamation. Il sera secondé par David Livington Mabanza qui a récolté 27 voix contre 19 obtenues par Fulume Muleu Muleu. Et enfin, Sylvain Diasso est élu questeur avec 26 voix contre 20 obtenues par son adversaire Bonaventure Kipalamoto, alors que le questeur du bureau d'âge Joël Ibila Bampia a été écarté au premier tour. Signalons qu'aucune des 3 femmes que compte l'organe délibérant du Kwilu n'est membre de ce bureau définitif. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Par ailleurs, à Kalemi, les jeunes réunis au sein de l'association dénommée l'élite au service du Tanganyika lancent une sonnette d'alarme face à la mauvaise gouvernance. Dans une déclaration ce vendredi, cette structure des jeunes observe que plusieurs secteurs de la vie se détériorent davantage dans le Tanganyika. C'est notamment la sécurité, les infrastructures, l'économie et le social. Cette structure exige des élus provinciaux un contrôle parlementaire rigoureux et sans complaisance du gouvernement dès la rentrée parlementaire. On écoute Charles Dubois Seya, président de cette structure, dans cet extrait choisi par Paul Mounanga.
Nous avons estimé nécessaire qu'avant la rentrée parlementaire, que nous puissions venir donner de la matière à nos avocats. Comme vous le savez bien, le député sont les avocats subordonnés à une obligation ou à une condition de résultat. Nous avons vite compris qu'il y a eu une léthargie et cette léthargie devrait être brisée que par la population. C'est ainsi qu'à ce jour, nous avons pris l'initiative comme les élites au service du Tanganyika parce que nous sommes prêts pour la paix, pour le décollage et pour l'émergence de la province du Tanganyika. Et cela n'est possible que si les députés, que si l'animateur des institutions parlent le même langage avec la population. Les députés sont élus avec une obligation de résultat. Dès lors que le résultat est calamité sur le terrain et que leur silence finirait par confirmer notre thèse de complicité de la mauvaise gouvernance, la population prendra un stylo rouge pour signer le sort à tout élu.
Dans un autre aspect d'actualité, le petit marché communautaire, communément appelé Maya Franga, sur la route Bogoro-Kasenyi, constitue un point de promotion du vivre ensemble entre différentes communautés au sud du Rumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri, très fréquentée par les usagers de la route qui s'y arrêtent pour s'y ressourcer pendant leur déplacement. Ce marché est surtout connu pour la vente des cossettes de manioc brisées ainsi que des fruits. Ezekiel Mouzalia a rencontré quelques femmes en pleine activité dans le cadre du mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes. Voici son reportage.
Située en plein milieu, dans la brousse, à côté d'une petite rivière, les femmes ont surnommé cet endroit Maya Franga, entendez, eau d'argent. C'est ici que la plupart tirent l'essentiel de leurs revenus. Cet endroit est réputé pour être le lieu des ventes par excellence des cossettes de manioc brisées ou encore des fruits dont se servent surtout les usagers de la route Bunia-Kasenyi. Témoignage de cet habitant.
Je m'arrête ici pour acheter du manioc, songo comme on l'appelle. C'est parce que j'ai faim. En tout cas, ça m'aide beaucoup.
Ce point de vente ne constitue pas seulement un lieu d'exposition d'articles, il est aussi un endroit qui permet aux marchandes venues des différentes communautés d'échanger sur leur vécu quotidien.
Nous avons différentes tribus, les Emma, les Ndou, Ngiti, et nous vivons en harmonie ici. L'argent n'est pas en circulation. Tu vas arriver avec la marchandise, mais c'est seulement le soir que tu peux avoir quelque chose pour manger ou scolariser les enfants.
Ces femmes demandent au gouvernement d'instaurer la paix, sans laquelle, selon elles, le développement économique de la région est impossible. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Restons en Ituri, précisément à Bunia toujours, où les femmes des Nations Unies, MONUSCO et agences du système onusien ont clôturé hier les activités du mois de la femme. C'était autour d'une rencontre d'échange organisée au bureau de l'UNICEF sur l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes. Quelques défis liés à la promotion des droits des femmes ont également été évoqués au cours des échanges. C'est ce que nous dit Sadiq Aboubakar.
Avec l'accompagnement de quelques hommes, dont certains chefs d'agence des Nations Unies et de la MONUSCO, ces femmes ont échangé sur des droits liés aux freins qui ralentissent la promotion des droits des femmes. C'est le cas d'Augustine qui travaille au ICR, qui estime que la femme constitue elle-même le principal obstacle à la promotion de ses droits.
Le premier problème, c'est que nous-mêmes, on se déprécie. On n'a pas confiance en nos capacités. On n'a même pas confiance en cet état de droit et d'égalité-là. Parce que nous-mêmes, nous ne croyons même pas à ça. Honnêtement, cette journée me fatigue parfois. Je m'excuse si ça va scandaliser les gens. Parce que chaque année, c'est des réclamations, mais il n'y a pas d'action.
Pour sa part, Brigitte Omari de UNFPA affirme que la promotion des droits des femmes fait face à plusieurs défis d'ordre notamment socio-économique et culturel.
La culture qui ne se conforme pas aux lois, c'est une culture qui ne devrait pas être soutenue, telle que le mariage des enfants. Le mariage des enfants, jusque-là, c'est soutenu par certaines cultures, mais ça hypothèque l'avenir de la jeune fille.
Pour finir, beaucoup de participantes, à l'exemple de Brigitte Omari, ont reconnu que l'émancipation des femmes est une lutte, un long processus. Comme qui dirait, la bataille pour la promotion des droits des femmes continue. Bunia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Burkina Faso. Le musellement de toute voix dissidente est devenu la règle. C'est la déclaration de Human Rights Watch vendredi 28 mars. L'ONG de défense des droits humains s'alarme de la série d'arrestations qui s'enchaînent à un rythme particulièrement inquiétant. En l'espace d'une semaine, au moins 8 personnes, dont 5 journalistes, ont été amenées par des hommes en civil sans mandat ni motif officiel. Tous sont détenus dans un lieu toujours inconnu à ces jours. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, la répression contre la presse s'accentue.
L'invité.
Au Kassai oriental, les femmes évoluant dans les secteurs des mines, des médias, de la santé ainsi que quelques directeurs des entreprises publiques ont pris part à une journée sectorielle sur les mines, la résilience et le développement à l'est de la RDC. Une activité organisée mardi dernier par l'agence de communication dénommée Responsabilité sociétale des entreprises, RC en sigle. Sa directrice générale, Mushia Kabeya, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Madame Mushia Kabeya, bonjour.
Bonjour madame.
Que signifie RSE?
Résilience RSE. Donc c'est une agence qui est spécialisée en RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça signifie de pouvoir s'occuper des questions sociétales, des questions sociales de l'entreprise, comme l'agriculture, l'environnement, la santé. Et là, effectivement, au mois de mars, nous nous occupons de l'objectif de développement 5, qui parle du genre et qui parle notamment de l'autonomisation des femmes.
Et pourquoi avoir organisé cette journée sectorielle dans la province du Kassai Oriental?
Ça fait 11 ans que chaque année, nous organisons une rencontre de femmes, toujours à la rencontre des femmes professionnelles, les femmes employées, les femmes entrepreneurs, les femmes artistes, les femmes politiciennes, pour pouvoir mettre en avant la représentativité des femmes dans les secteurs d'activité. Prenons l'exemple du secteur minier. En RDC, la place de la femme, c'est 5%. La femme est représentée à hauteur de 5% dans le secteur minier en République démocratique du Congo, à hauteur de 15% sur le plan mondial. Et donc le but, c'est vraiment d'interroger certains secteurs d'activité et de demander comment, quelle est la représentativité des femmes dans la science, dans la politique, quels sont leurs défis, quelles sont leurs difficultés et quelles sont au contraire leurs opportunités en tant que femmes. Quand on regarde par exemple dans la politique, on voit actuellement le rôle que joue la femme dans la diplomatie. Et il y a même des gens qui disent même que si elle n'était pas femme, elle n'aurait pas fait les résultats qu'elle a fait là. Donc on est vraiment fiers de mettre en avant les femmes qui s'illustrent dans un secteur.
Et comme vous êtes à la deuxième édition ici chez nous. Avez-vous cherché à trouver les causes de cette sous-représentation des femmes dans le secteur des mines, aussi en politique?
Non, je n'ai pas la réponse complète. C'est justement ça, le but de ces rencontres sectorielles. On pense que c'est, comme c'est le mois de mars, c'est seulement pour les mamans. Non. Au contraire, nous, ce qu'on aime, c'est que on a des problèmes, nous, les femmes, mais on a des problèmes, on a des questions à poser aux hommes. Donc, on aime quand l'homme aussi participe, à l'instar du DG, monsieur André Kabanda, directeur général de l'AMIBA, de montrer que je suis peut-être un dirigeant, je suis peut-être un homme, mais je pars donner mon temps à la femme, je pars écouter les femmes, je pars écouter leurs propositions. Comme vous voyez là, il y avait directement une proposition de stage avec la seule jeune fille en formation d'ingénieur à l'université de Mbujimayi. Donc chaque homme de masculinité positive a de quoi passer aussi un bon moment avec nous.
Et la présence de monsieur André Kabanda, qui est le directeur général de l'AMIBA dans la salle, est-ce qu'il avait une signification particulière?
Oui, vraiment, il a voulu montrer cet élan de masculinité positive, tout comme le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui-même, le président, avait lancé le concept de masculinité positive africain en RDC à Kinshasa en présence de deux ou trois autres chefs d'État africains. Pour que la femme restaure ses droits, il faut que l'homme aussi s'adapte et ait une bonne mentalité. Donc il a vraiment voulu montrer ça. En plus, quand ça vient de la tête, tout le monde suit l'exemple. C'est dans cet exemple-là que le DG de la MIBA a voulu montrer que c'est une rencontre des femmes dans les mines, mais il faut qu'on ait le directeur général de la principale entreprise minière de la région.
Il y a eu des thématiques qui ont été décortiquées. Quelle impression avez-vous après cette deuxième édition?
thématiques. Les thématiques étaient vraiment intéressantes, de rappeler aux gens ce que c'est que le génocide, le génocide économique. On n'a pas encore fait assez de vulgarisation de cette expression. Nous avons abordé effectivement la féminisation des métiers du secteur minier. Nous avons également mis en avant la femme dans les médias, un outil aussi très important pour la population. En tout cas, cette année, nous mettons en avant la femme dans le secteur de la santé avec l'accompagnement du ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Et vraiment, encore une fois, cette question de femmes dans les mines qui est notamment portée par le cadastre minier, qui est le partenaire principal qui a vraiment souhaité accompagner cet événement.
Madame Mouchi Akabeya, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité est interrogé par Esther Ndalafina. Par ici, nous mettons un terme à ce journal coordonné par Jules Mister Bilanda et mis en onde par Pierre Diassinois. Grâce à Mzati, ici était la présentation. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur www.radiocapi.net. Suivez-nous également sur notre chaîne WhatsApp dont le lien se trouve sur nos plateformes digitales Facebook et X Radio Capi. Merci pour votre confiance.